Voilà. Je vous invite maintenant, s'il vous plaît, à ouvrir vos Bibles pour une première lecture dans l'évangile de Matthieu et au chapitre 4. Évangile de Matthieu, chapitre 4. Au verset 1. Avant que j'oublie aussi, il y a M. Gau ce matin qui nous a signalé que le 29, mardi 29, le soir, à l'horaire de la réunion, il avait vraiment à cœur d'apporter un enseignement sur le service. Quelque chose ouvert à toute l'assemblée. Il avait vraiment à cœur, donc si vous pouvez venir à cette réunion, c'est vraiment important et propice. Venez-y. Voilà. Donc Matthieu, chapitre 4 et verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous faisons une deuxième lecture dans Jean. Jean au chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 1. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Amen. Amen. On va se recueillir encore un instant, s'il vous plaît. Merci, notre Dieu, notre Père, d'être là au milieu de nous, par ton esprit. Merci encore de toucher nos cœurs, de voir nos cœurs ouverts, Seigneur. S'il y avait des verrous, des raisonnements qui fermaient les cœurs de quelqu'un, tu lui montres combien tu es doux, combien tu es humble de cœur, combien tu veux nous bénir, combien tu veux sauver, faire du bien à tout être humain qui est prêt à croire en toi. Nous avons ouvert la parole, nous avons ouvert le Saint-Livre et nous voulons, Seigneur, avoir un saint respect pour toi et ta parole. Oui, Seigneur, qu'elle puisse avoir un écho favorable dans notre cœur. Et encore pour ma part, tu m'inspires et tu m'aides pour porter un message qui vient de toi, conforme à la vérité, Seigneur. Garde-moi de m'égarer et à chacun, tu donnes de recevoir ce que tu as préparé d'avance pour nous tous, afin que nous ressortions bénis, encouragés et toujours un peu plus près de toi, comme on l'a chanté. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous avons lu deux textes et j'ai fait le choix de commencer avec ces deux lectures pour nous montrer deux situations bien, bien différentes. La première, Jésus vient de se faire baptiser. Jésus vient de se faire baptiser et il nous est dit quelque chose d'étrange. Jésus est conduit dans le désert. Beaucoup de personnes ne se souviennent pas de ce qui est précisé, c'est que ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable qui a conduit Jésus dans le désert. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert. Dieu le voulait dans le désert, un moment à part. Son ministère a commencé comme cela. Juste après son baptême, il se retrouve dans le désert. Et voilà qu'il va se passer quelque chose, c'est qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus va avoir faim. On est tous d'accord, c'est normal ? Jeûner 40 jours, 40 nuits, on a faim. Ça, c'est normal. Et voilà qu'au moment le plus propice, lorsque les besoins les plus normaux se font sentir, le tentateur, nous est-il dit, vient pour venir essayer de piéger Jésus. Il arrive vers Jésus et qu'est-ce qu'il lui dit? Puisqu'il comprend qu'il a faim, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Change ces pierres en pain. Est-ce que Dieu est capable de faire un miracle? Bien sûr. Est-ce que le Fils de Dieu est capable de faire un miracle? Bien sûr. Et le diable va lui dire, fais un miracle. Change ces pierres en pain. Est-ce que d'avoir faim, c'est légitime, c'est normal? Bien sûr. C'est pas un péché que d'avoir faim. Tout paraissait être propice pour que Jésus, légitimement, fasse un miracle. Ce que j'aimerais noter cet après-midi, c'est que Jésus n'a pas voulu faire ce miracle. Il a refusé de faire ce miracle. Et dans toute la parole, je n'ai jamais vu Jésus faire un miracle pour son propre bénéfice personnel. Vous avez déjà vu ça? Jésus n'a jamais fait un miracle pour se satisfaire à lui-même ou satisfaire ses propres besoins. C'est étonnant. C'était pourtant légitime, il en était capable, il avait l'autorité pour, et il ne l'a pas fait. À aucun moment, Jésus n'a profité de sa position de fils de Dieu pour faire un miracle, pour à son bénéfice agir, en quelque sorte que ce soit. On a vu un autre moment, le premier miracle que Jésus a fait dans l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des noces, un repas de noces, il manque de vin. Est-ce que c'était bien ou mal? Je sais pas. Il manque de vin. Et puis la mère de Jésus, Marie, vient vers Jésus, lui dit, voilà, ils n'ont plus de vin, etc. Jésus, il répond quelque chose de surprenant. Je pense qu'on manque une partie à la traduction, puisqu'il ne manque pas de respect à sa mère, ça on est bien d'accord. Jésus n'a jamais péché. Mais Jésus dit, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est propice? Mon temps, mon heure n'est pas encore venue. Bref. Et on voit que là, il va faire le premier miracle. Le besoin était un peu moins légitime, c'était juste du vin qui manquait, il y avait de l'eau pour boire. Et pourtant, Jésus a fait ce miracle, et ça n'a pas été à son bénéfice à lui, lui qui est du vin ou pas, je crois que ça ne le gênait pas beaucoup, mais c'était aussi pour les autres. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail, c'était juste mon introduction pour montrer quoi? Que Jésus n'a jamais fait un miracle pour lui-même. Jésus n'est jamais venu sur la terre pour lui-même, pour se satisfaire, pour découvrir ce que c'était sur la vie sur la terre, parce que dans le ciel il s'ennuyait, il avait besoin de venir faire un petit tour sur la terre. Jésus, il n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour les autres, il est venu pour vous, il est venu pour moi, il est venu pour chacun d'entre nous, pour le monde qui était perdu. Jésus n'a jamais utilisé la puissance de Dieu pour son bénéfice personnel, mais toujours pour le bien d'autrui. Jésus s'est donné pour vous, pour moi. Jésus s'est offert entièrement de sa naissance à sa mort. Il n'avait qu'un seul but, qu'un seul intérêt, faire la volonté du Père et sauver chacune de nos âmes. C'est la première chose que je voulais noter. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde une autre lecture dans Luc chapitre 10. Luc au chapitre 10 et au verset 25. Je m'adresse premièrement à ceux qui connaissent Dieu, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se croient enfants de Dieu, et sûrement qu'on le fait bien, je l'espère en tout cas, ceux qui se savent sauver et qui se posent peut-être un peu la question, à quoi me sert maintenant la vie? Dieu m'a donné la vie éternelle, Dieu a sauvé ma vie, je suis pardonné de mes péchés, mais maintenant, qu'ai-je à faire? Que dois-je faire? À quoi dois-je servir? Je poserai quelques questions. Pour qui Jésus est-il descendu? Pour nous. Et maintenant qu'il est descendu pour nous, qu'il est venu sur la terre pour nous sauver, merci Seigneur, maintenant, pour qui est-ce que nous vivons? Il est vite fait de dire, je vis pour Jésus, je vis pour Dieu. Mais je crois qu'il y a encore mieux de vivre pour Jésus. Il y a encore mieux que de dire, je vis pour Dieu. C'est de dire, Jésus vit en moi et c'est lui qui agit au travers de moi. Parce que je peux faire plein de choses pour Jésus, je peux faire plein de choses pour Dieu sous prétexte, je peux en rentrer dans toutes sortes d'œuvres humanitaires, toutes sortes d'œuvres, de faire plein de choses en disant que c'est au nom de Jésus et pour Jésus. Je vis pour Jésus. Mais la Bible a beaucoup de fois, beaucoup plus de fois cette expression de dire « Christ vit en moi ». Paul disait « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Je vis pour, et au nom de Christ, au nom de la religion, au nom de la chrétienté, on fait beaucoup de choses. Mais puissions-nous comprendre qu'il y a encore mieux, que Dieu veut vivre en nous. Et il est dit qu'il faut s'offrir, offrir nos corps comme un sacrifice pour qu'il devienne quoi ? Une habitation, une demeure, un temple pour Dieu. Et pour que, une fois que Dieu est en nous, par son esprit, il puisse agir au travers de nous. Regardez, Jésus n'est pas vécu pour lui-même et nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes ou simplement, soi-disant, pour le ciel. Nous devons vivre avec Jésus en nous et qu'il puisse agir en nous. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut tout ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin. Puis il mit sur sa propre monture. Cet homme le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Qui avait déjà lu ce récit ? Vous l'avez déjà lu ? Peut-être quelqu'un ne l'avait jamais lu ? Je fais un court résumé. On essaie de piéger Jésus. Un docteur de la loi, quelqu'un qui disait vivre pour Dieu, cherche à piéger Jésus dans ses propos. Et il va lui dire, voilà, comment est-ce qu'on peut avoir la vie éternelle ? Tiens, dis-nous. Jésus lui dit, qu'est-ce qui est marqué dans la loi ? Qu'est-ce que Dieu a dit ? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, ah, d'accord, ok. Tu as bien répondu, Jésus. Et cet homme, il veut encore piéger Jésus. Il continue, ah oui, mais qui c'est mon prochain ? Vous voyez comme on a du mal à se mettre au service des autres. C'est facile de dire je sers Dieu, mais servir les autres, aider les autres. Les autres, c'est que des humains, ils sont plus compliqués. Hein. Aimer Jérémie, rendre service à Jérémie, supporter Jérémie, c'est plus difficile que de dire je sers Dieu. Hein. Parce que Jérémie, c'est qu'un homme, il est faible, il a des défauts. Et souvent, on tombe dans ce piège de dire moi je sers Dieu, mais par contre, les autres, c'est pas pareil. Cet homme va dire, oui, mais qui est mon prochain ? Jésus va lui donner cette réponse. Il y avait un homme qui rentrait de Jérusalem à Jéricho et sur le chemin, il se fait attaquer, des brigands. Le dépouille, lui enlève tout ce qu'il a, il lui enlève sa bourse, il lui enlève tout ce qu'il a. Le frappe, le bat, le roue de coups. Et cet homme se retrouve sur le côté, comme mort, à demi-mort. Et il le laisse comme ça. Et voilà qu'un sacrificateur, un homme religieux, un homme qui servait Dieu lui aussi, va passer, va regarder cet homme et va le laisser, l'ignorer. Un lévite, une autre personne qui est au service de Dieu va passer par là, il va voir cet homme, il va passer outre, il va continuer ce chemin. Et Jésus va dire quelque chose d'étonnant, il va dire quelque chose de très important qui va toucher peut-être l'esprit de cet homme qui a posé la question pour le piéger. Il dit « un Samaritain qui passait par là ». Eut compassion de lui. Et pour un religieux de cette époque, un Samaritain, c'était l'ennemi. C'était quelqu'un qui était moins que rien, quelqu'un qui était mis à part, qui n'était pas béni de Dieu, pour faire simple. Et il voyait ces gens comme des imposteurs. Des gens qui se disaient croire en Dieu, etc., mais qui étaient à l'écart, qui n'étaient pas dans la vérité. Et puis Jésus va utiliser ça, il va dire, il y a un Samaritain qui passe par là, il va avoir compassion de cet homme, il va le prendre, il va le mettre sur sa monture, était-ce un cheval ou un âne, j'en sais rien, il le met sur sa monture, après l'avoir soigné en mettant de l'huile et du vin, il va l'amener jusqu'à l'hôtellerie, il va prendre soin encore de lui et il va dire au responsable de l'hôtellerie, il va dire, voilà, tu prends soin de lui, tu continues à le soigner, je te donne de l'argent d'avance et si tu dépenses plus, je te le rendrai à mon retour. Et j'aimerais m'arrêter un petit peu sur, premièrement, sur ces trois personnes qui sont passées devant cet homme qui était blessé, ce blessé du chemin. Premièrement, il y a un sacrificateur. La Bible nous dit que les sacrificateurs, c'était ceux qui exerçaient un service auprès de Dieu en faveur de ceux qui venaient pour l'expiation de leurs péchés, pour offrir des sacrifices à Dieu. Sacrificateur avait une position particulière, sa vie était mise à part. Il devait se garder de plusieurs choses, dont l'impureté. Plusieurs choses qui étaient considérées comme l'impureté. La Bible nous donne plusieurs exemples, et entre autres, il y avait quelque chose de très important. Le sacrificateur n'avait pas le droit de se rendre impur en touchant quelqu'un qui était mort. La dépouille d'un homme. Et j'ai relevé pour vous ce texte dans Lévitique 21, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. Le sacrificateur, il y avait une loi qui était là, il ne devait pas toucher un mort. Il n'avait pas le droit parce que lui, il était au service de Dieu. Et cet homme est un sacrificateur, il est là sur le chemin, il passe et il voit cette dépouille. Cet homme à demi-mort, peut-être qu'il l'a considéré comme mort, il s'est dit, oula, il ne faut surtout pas que je le passe, et il est passé outre. Ah, la loi de Dieu dit que, la règle dit que. Et puis on va s'enfermer dans toutes sortes de raisonnements comme ça, on va dire, oula, il ne faut surtout pas, il faut que je me garde pur, je ne touche pas à telle dépouille. Telle chose, il ne faut surtout pas toucher un mort. C'est se rendre impur. Alors il est passé outre. Il a cru que cette personne était morte. Et combien de fois dans notre comportement en tant que chrétien, on estime que telle personne est déjà vouée à l'échec, telle vie est déjà vouée à l'échec. On rencontre des personnes, des blessés du chemin, des personnes avec une vie brisée, détruite, complètement mise par terre, dépouillée, et c'est vite fait de juger à l'apparence. Vu comme il est, oula, cette personne, on n'y arrivera jamais. En tout cas, cette personne, Dieu ne peut rien faire pour elle, ou en tout cas, elle ne s'approchera jamais de Dieu. On voit des gens blasphémer, rigoler sur Dieu, insulter Dieu, avoir des blagues, toutes sortes de blagues mauvaises qui nous importunent quelquefois. On voit des gens faire des choses horribles et on dit pour lui, il ne mérite pas la grâce de Dieu. Pour lui, c'en est fini. Telle personne a tué, telle personne a volé, telle personne a été violente. Oula, pour lui, c'est fini. Il ne mérite pas. Et on juge d'après l'apparence. Quelquefois, on va pour témoigner de l'amour de Jésus dans nos cœurs, de ce qui s'est passé, de cette rencontre personnelle avec Dieu. Et puis la personne, elle a une réaction violente. Ça vous est déjà arrivé? Un jour, j'ai dit à quelqu'un, Dieu vous aime. Cette personne, elle a changé. Elle était saoule, elle s'est mise en colère, elle s'est mise à hurler, c'est pas vrai, à s'énerver. J'ai dit, si, je vous dis que Dieu vous aime. C'est pas vrai, elle s'est mise en colère. Et je crois que les personnes qui se mettent le plus en colère, c'est les personnes qui ont le plus besoin de l'amour et du secours de Dieu. Parce qu'il y a une réaction, ils n'y croient plus, ils ont trop été désespérés, c'est justement eux que Dieu veut sauver. Quand on regarde à tout l'évangile, c'est les personnes qui en ont le plus besoin que Jésus va rencontrer. Pas ceux qui se croient justes, qui se croient purs. Cette image que Jésus donnait, s'il y avait 100 brebis et une seule qui se perd, le berger il laisse les 99, il va chercher celle qui a disparu, celle qui est peut-être dans un fossé, dans les ronces, qui est perdue. Et va se donner la peine d'aller la chercher. Il va dire, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Il va dire ça encore à des gens qui voulaient le piéger. Parce qu'il est en train de dire, vous qui vous croyez juste, vous qui vous croyez mériter le ciel, comprenez que je ne suis pas venu pour vous. Vous ne voulez pas de moi. Mais celui qui est dans la misère, celui qui est piégé, celui qui est dans les ronds, celui qui souffre, c'est lui que je suis venu chercher. C'est chez eux que je suis venu manger. Et il se retrouvait à la table de grands pécheurs aux yeux des hommes. Parce qu'il avait un grand salut pour eux et un grand pardon. Alors ne jugeons pas l'apparence. Frères et sœurs, ne soyons pas des sacrificateurs religieux. Comprenons que le monde a besoin de l'annonce de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et quand il y a les plus grandes réactions, c'est parce qu'il y a des plus grands besoins et qu'il nous faut prier pour ces personnes parce que Dieu les aime. Et Dieu peut faire de grands miracles et toucher le cœur de chacun. Il y a une autre personne qui est là, dont Jésus parle, le Lévite. Le Lévite, cet homme qui, de par sa naissance, de par ses origines, était réservé. Il était de la tribu de Lévi. Il était mis à part pour le service au temple. Et la Bible nous raconte que cette tribu était vraiment mise à part pour faire toutes sortes de services dans la maison, ouvrir les portes, fermer les portes, laver les ustensiles, toutes sortes de choses, porter l'arche de l'Alliance, etc. Et les Lévites devaient servir dans le temple un certain temps par an. Dans l'année, je crois qu'ils devaient servir un ou deux mois, un ou trois mois, je ne sais plus, je n'ai pas retrouvé le texte. Mais ils servaient un temps, puis après ils rentraient chez lui. Il venait à Jérusalem, la Bible nous dit, Jésus dit, il allait de Jérusalem à Jéricho, il rentrait chez lui, ce Lévite. Il était allé pour servir au temple un temps, et il rentrait chez lui. Et le Lévite, il était allé faire son service, peut-être pendant un moment, il n'avait pas vu sa famille, peut-être depuis un mois ou plus. Et peut-être qu'il lui tardait de rentrer chez lui, parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas vu sa femme, ses enfants. Et il passe près de cet homme, et il passe outre. Il ne s'arrête pas, il n'a pas compassion du blessé du chemin. Et quelquefois, est-ce qu'on n'a pas un peu cette même mentalité de dire, je viens à la réunion, et pendant une heure, on est à fond avec le pasteur. Pendant une heure, on est à fond avec le prédicateur. Pendant quelques minutes, on chante de tout notre cœur. Et tout est beau, tout est merveilleux, on chante des cantiques, ça nous redonne la joie. On vient même recevoir beaucoup à l'église. Et on oublie qu'il faut s'y apporter. Et on est là, et pendant un moment, ça va. Et puis on rentre à la maison, et c'est l'heure. La réunion, elle est terminée. Quand le pasteur, il tarde un peu, la réunion était longue, elle a duré. Au lieu de prêcher les 20 minutes habituelles, 45 minutes, tu imagines. J'ai un ami pasteur qui disait qu'il est allé prêcher au Maroc. Il est allé prêcher en Tunisie aussi. Et quand il est allé prêcher, la réunion, il arrête lui au bout de 30 minutes. Parce qu'il fait partie d'une grande assemblée. Et il voit les yeux des gens quand ils sont fatigués, quand ils regardent les montres, etc. Je règle pas les comptes, attention. Ça ne me dérange pas, je comprends. Mais lui, il s'arrête. Et les gens le regardaient et ils n'ont pas bougé. Il regarde le pasteur en chat et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, continue. Il regarde ses notes. Et puis, il y allait de tout son cœur. Et la réunion a duré 4 heures. 4 heures de prédication. 4 heures de prédication. Ça a commencé le matin. 4 heures. Ils se sont arrêtés. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils s'arrêtent. Le soir, il avait une autre réunion. Il s'est dit, j'espère que ce ne sera pas pareil. Le soir, plusieurs heures aussi, ils ont voulu l'entendre. Le lendemain, puisqu'il avait invité pour une mission, le lendemain, il allait dans une petite école biblique. Et paf, il prêche. Et pareil, il ne voulait pas qu'il s'arrête. Il ne voulait pas. Et il a dit, j'ai jamais autant parlé. Mais il était content. Il a fait une douzaine de journées comme celle-là. Mais il avait une joie de voir des personnes qui avaient soif d'entendre la parole de Dieu. Et peut-être que nous, dans notre cœur, bon, on veut bien donner un peu de notre temps pour le Seigneur, on veut bien servir Dieu, tout ça. Puis après, il faut qu'on rentre. J'ai mes bœufs qu'il faut que je détache. Quelqu'un a dit ça à Jésus, dans la parabole que Jésus donne en tout cas. « Ouh, moi j'ai une paire de bœufs à essayer. » C'était ça. « Moi, j'ai le plat qui mijote. Faut vite que je rentre, j'ai le plat qui mijote. » Ou toutes sortes de choses. Et si sur notre chemin de retour, on voyait quelqu'un dans le besoin, un blessé du chemin, est-ce qu'on serait prêt à s'arrêter, prendre un peu de temps pour lui? Cet homme rentrait de Jérusalem à Jéricho, il n'avait peut-être pas vu sa femme, ses enfants, sa famille, il avait peut-être plein de projets, il faut que je sème, j'en sais rien ce qu'il devait faire. Mais en tout cas, cet homme est passé outre et il a ignoré celui qui était dans le besoin. N'ayons pas cette mentalité-là, d'accord? Comprenons que c'est notre vie tout entière qui est au Seigneur. Et quelle joie, quel bonheur il y a dans notre cœur quand on a servi le Seigneur et même presque à notre insu. Ça s'est présenté comme ça, quelqu'un a commencé à poser des questions, je lui ai répondu, il a été intéressé. J'avais pris 10 minutes pour aller faire mes courses, mais je suis resté 3 heures dans le magasin parce que la personne, elle voulait savoir. Elle avait envie d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un un jour était dans la rue et c'était une sœur qui gênait un peu dans l'église parce qu'elle priait toujours très fort. mais une personne qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Et un jour, elle s'est retrouvée dans la rue, un homme a fait un arrêt cardiaque sur place. Un arrêt cardiaque. Et elle, ni une ni deux, elle connaît un sauveur. Jésus. Elle s'est jetée sur la personne, et au lieu de lui faire le bouche-à-bouche massage cardiaque, elle s'est mise à prier, et elle a appelé. S'il y a quelqu'un, parce qu'elle ne savait pas faire les premiers secours. Elle s'est mise à prier, à prier, à prier. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a fait le massage cardiaque. Et reste à côté, elle priait, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Les gens, ils la regardaient comme ça. Mais elle priait, elle suppliait le Seigneur. Et puis voilà que les pompiers sont arrivés. Ils ont continué à faire le massage. Plusieurs minutes avaient passé comme ça, je ne sais pas exactement. Et puis au bout d'un moment, alors que tout le monde croyait que c'était fini, elle était là, elle s'est mise un peu à l'écart. Elle priait. La personne est revenue et elle n'a eu aucun séquel. Et le dimanche d'après, la personne était dans l'église et moi j'étais de passage dans cette église. Et la sœur qui avait prié, elle était là aussi. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent, des fois on est incrédule. Hein. On dit venez, on invite et on ne s'attend même pas à ce que les gens y viennent. Alors que les gens, ils sont des fois plus intéressés que ceux qu'on le croit. La personne est venue, elle est encore membre de cette assemblée. Elle s'est donnée au Seigneur, elle s'est donnée entièrement. Et par son biais, il y a aussi d'autres personnes de sa famille qui ont entendu parler du Seigneur et qui ont pu trouver la joie de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est attaché par les minutes, par l'heure, par le temps, par le planning, ou est-ce qu'on s'est donné tout le temps au Seigneur? On est prêt à aménager notre planning, bien qu'il en faille un, pour le salut des âmes. Et puis il y a ce Samaritain, celui qui n'avait aucune responsabilité, celui qui, après tout, aurait pu dire, mais ça c'est un juif. Parce que ça se reconnaissait, hein, à la tenue vestimentaire, hein. On savait qu'il était juif ou qu'il n'était pas. Hein. Samaritain aurait pu dire, mais moi je ne le connais pas après tout. Hein. C'est pas de ma famille, c'est pas des miens, c'est même l'ennemi, ceux qui nous jugent là, ceux avec qui on n'est pas d'accord. Jésus un jour s'est retrouvé devant une Samaritaine. Toi qui es juif, tu demandes à une Samaritaine de te donner à boire? Et oui, Jésus n'est pas dérangé par les origines, lui. Et puis ce Samaritain, il va s'arrêter, il va prendre soin de cet homme. Il va le monter sur sa monture. Et lui, il va descendre, il va marcher à côté. Est-ce qu'on est prêt à s'humilier, à se mettre au niveau, même mettre les autres au-dessus de nous-mêmes, les voir comme ayant de la valeur à nos yeux, plus de valeur que notre propre vie, et dire, voilà, je le mets sur ma monture, parce que de lui-même, il ne peut pas avancer pour l'instant. Il faut qu'il arrive à l'hôtellerie. Peut-être faut qu'il arrive à l'église. Allez, va. Je t'emmène, je te mets sur ma monture. Et puis, il avance, et puis il le soigne. Il met de l'huile, l'huile qui souvent est l'expression de l'action du Saint-Esprit. Est-ce qu'il ne nous faut pas une inspiration spirituelle pour parler aux gens? Est-ce qu'il ne nous faut pas l'aide du Saint-Esprit pour rendre témoignage? Je crois, hein, que Dieu puisse nous susciter les mots qui toucheront les cœurs, répondre aux besoins. Et je crois qu'on a tous un témoignage, un texte en tête qui pourrait répondre à un besoin, mais nous-mêmes on ne sait pas de ce dont la personne a besoin. Par contre, Dieu sait tout. Il lit dans les cœurs. Il sait ce dont la personne a besoin. Il peut nous donner de dire les bons mots, de parler des bonnes choses pour que la personne puisse comprendre que Dieu l'aime et que Dieu veut la sauver. L'huile douce qui soigne les plaies. Puis le vin, hein, le vin avec un peu d'alcool qui venait, hop, ôter, tuer quelques microbes s'il y en avait à cause des blessures, l'amertume qui est là parce qu'on a été blessé dans la vie, etc. Ce vin qui vient, ce vin qui aussi représente la joie, mais ce vin aussi qui représente le sang de Jésus qui coule à la croix. Puissions-nous être des personnes qui communiquent la joie de Dieu, des personnes qui annonçons que par le sang de Jésus, on peut être purifié, lavé de tous nos péchés. Amen. Ce Samaritain, qui lui n'avait aucune obligation, qui après tout ne pouvait même avoir toutes les raisons de passer outre lui. C'est Jésus, c'est lui que Jésus a choisi comme exemple pour dire qu'il fallait prendre soin de son prochain. Amen. Et je reviens sur Jésus, qui n'est pas venu pour son propre bénéfice, pour profiter lui-même de sa propre vie, mais qui s'est donné, qui est venu pour chacun d'entre nous. Jésus, lui, vous avez vu ce qui est dit dans ce texte? Un Samaritain qui voyageait. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Un peu comme Jésus, hein. Il n'est pas venu spécialement de la terre, de l'union d'un homme et d'une femme, il est venu du ciel. Faire un voyage, un séjour sur la terre. Et il est parti, qui a vu là où il est allé? de ses propres yeux, personne. On sait qu'il est auprès du Père, qu'il est retourné dans le ciel auprès du Père, mais qu'il est aussi présent par son esprit. Jésus est venu voyager sur la terre, il est venu faire un séjour. Et puis il a vu, il est prêt à voir le cœur de quelqu'un qui est blessé du chemin cet après-midi. Peut-être que vous n'êtes ni un sacrificateur, ni un lévite, ni un samaritain, mais que vous êtes le blessé cet après-midi. Peut-être que quelqu'un dans son cœur souffre, a été meurtri par la vie, meurtri toutes sortes de souffrances. Il y a toutes sortes de souffrances dans la vie, bien sûr, l'abandon de nos parents. Il y a peut-être un échec dans le couple, il y a un échec dans l'éducation, il y a un échec des échecs, des blessés du chemin. Il y en a, on a été des blessés du chemin, pour la plupart. Personne ne peut dire, je crois, j'ai jamais eu de soucis, jamais eu d'épreuves, ou je n'ai plus de soucis, plus d'épreuves. C'est pas vrai. Et peut-être que cet après-midi, il y a un blessé du chemin. Et j'aimerais te dire, mon ami, que Jésus est venu, qu'il passe cet après-midi et qu'il voit ton cœur, ce que personne d'autre peut voir. Il te voit. Peut-être que d'autres t'ont méprisé. Peut-être que les religieux t'ont méprisé. Peut-être que les religieux t'ont condamné. Ah, impur, je n'y touche pas. Mais Jésus, lui, il vient et il ne regarde pas à tes origines, il ne regarde pas même à ce que tu mérites ou mérites pas. Personne ne mérite. Mais il regarde à ta vie qui a de la valeur à ses yeux. Et il a compassion de toi, comme ce Samaritain a eu compassion de ce blessé du chemin. Et il se penche sur ton cas, il voit que tu n'es pas mort, il voit qu'il y a de l'espoir. Et toi tu dis, mais non, c'est fini, je suis moribond. Mais Jésus dit, moi je vais te soigner, moi je vais t'aider. Je suis venu, je suis là, je passe par là et je te touche, je te guéris. Et il va répandre, comme Jésus l'a fait, il va répandre de son huile sur toi. Son esprit qui est le consolateur. Il va consoler ton cœur, le vin va passer, son sang va te purifier de tout péché et même de l'amertume que tu aurais envers ceux qui t'ont blessé ou la situation. Peut-être que quelqu'un a même de l'amertume envers Dieu parce qu'il dit, si Dieu existait, pourquoi il m'arrive tout ça? Pourquoi il m'est arrivé ainsi? Pourquoi on m'a fait tant de mal? Mais le mal dans ce monde vient de ce qu'on ne veut pas de Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, il fait le bien autour de lui, c'est le thème de ce message. Celui qui aime Dieu, il a compassion de son prochain, il ne lui veut pas du mal, et il ne lui fait pas du mal. Et peut-être que quelqu'un est un blessé du chemin, il en veut à Dieu, et aujourd'hui, sache que Dieu t'aime. Et si dans le monde est dans cet état, se fait la guerre, il y a toutes ces choses, est égoïste, c'est parce qu'il ne veut pas de Dieu. Ça se voit, on veut bien d'une religion, on veut bien s'appeler chrétien, mais par contre, donner sa vie à Dieu, pour qu'il puisse agir au travers de nous, ça on n'en veut pas. Pour qu'il soit le maître de notre vie, le Seigneur, on n'en veut pas. Un sauveur, allez presque, on en veut. Bien que, c'est pas toujours gagné. Mais un Seigneur encore moins. Et puisque le monde a refusé son Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu qui l'a créé, voilà l'état, voilà le bilan. Et ta souffrance, par contre, Dieu peut l'effacer. Dieu peut venir consoler ton cœur, nettoyer ta vie. Nettoyer ton cœur. Et Jésus, il est venu, il passe par là, il est venu sur la terre, il a fait du bien, et il s'est même humilié, la Bible nous dit. Comme cet homme qui est descendu de sa monture. Jésus est descendu du ciel, et il est venu pour toucher, pour prendre soin de nous, pour voir notre cas, et nous porter, et nous mettre sur sa monture. Parce qu'il veut nous emmener au ciel. Il veut nous donner le ciel, la vie éternelle comme espérance. Voilà l'œuvre de Jésus. Jésus, il est venu pas pour lui, mais pour toi et pour moi. Jésus veut te porter, toi qui n'as plus de force pour avancer. Il veut te faire avancer, il veut te prendre. Il veut te donner sa gloire. Il veut même que tu sois toi aussi appelé enfant de Dieu. Quel privilège! Qui peut dire, moi, je suis héritier du ciel? Parce que je le mérite. Qui peut le dire? Personne. Et pourtant, Jésus nous donne un peu de sa gloire. Il dit, je fais de vous des héritiers du ciel, si vous croyez en moi. Si vous croyez en moi. Jésus, il s'est humilié au point de porter nos péchés sur le bois de la croix. Il s'est donné, il a donné sa vie. Il va dire, personne ne me prend ma vie, on ne m'ôte pas ma vie, je la donne pour vous. Le bon berger donne sa vie pour les brebis, parce qu'il veut nous sauver, il veut nous bénir. Et dit, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus s'est donné, il s'est humilié pour nous aider à remonter la pente, à être restaurés, à devenir enfants de Dieu. Il nous amène jusqu'à l'hôtellerie. Dieu prévoit que tout enfant puisse trouver une église un havre de paix où il pourra recevoir la consolation, l'enseignement qui va le fortifier, le restaurer, le consoler, toutes sortes de choses que Dieu veut lui donner. La connaissance de sa parole. J'écoutais sur la radio ce matin en venant une émission catholique. On dit beaucoup de mal, mais il y avait une petite réflexion sur ce qu'on appelle les dons spirituels. J'ai été étonné de voir la personne qui parlait dire « Il n'y a aucun don mérité, ce ne sont que des cadeaux du ciel. » Et ce n'est pas fonction de hiérarchie. Chaque personne peut recevoir et bien d'exprimer la grâce de Dieu par l'action du Saint-Esprit en elle. Et elle disait même, ce n'est pas un don pouvoir, mais c'est un don savoir. Le fait de savoir ce que Dieu veut pour les hommes au point de l'exprimer, de le manifester par la foi. Dieu ne donne pas un pouvoir aux gens, ça ne sert à rien, il a tout pouvoir et l'exprime directement. Mais il nous donne de savoir sa volonté pour l'exprimer sur la terre. Et Dieu en nous agit au travers de nous si nous lui ouvrons notre cœur et si nous avons demandé pardon pour nos péchés et que nous lui avons dit « Viens régner dans ma vie maintenant et désormais. » Et Jésus est venu pour nous soigner, pour nous monter sa monture, pour nous emmener à l'hôtellerie. Il a lui-même commencé son œuvre. Il a chargé des frères et des sœurs pour s'occuper de vous, pour vous emmener plus loin. Et il a promis de nous donner à chacun ce qu'il nous fallait pour bénir les autres. Et à son retour, il va même donner des récompenses. À son retour, il va même donner le ciel. Alléluia, gloire à Dieu, la vie éternelle. Oui, quelqu'un peut-être est blessé du chemin cet après-midi. Sachez que Jésus vous aime. Jésus s'est donné sur la croix. Il a versé son sang pour vous soigner, pour vous purifier et que vous puissiez être élevé et pouvoir croire et savoir que vous êtes désormais enfant de Dieu parce qu'il vous a racheté au travers de Jésus. En donnant son Fils, Dieu a racheté ma vie. En donnant son Fils, Dieu veut racheter ta vie. Pour toi, ta vie n'a pas de valeur, mais pour Dieu, elle a une valeur inestimable puisque tu es sa créature. Il veut que tu sois son enfant. Amen. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole. Ta parole qui nous enseigne à te faire confiance. Ta parole qui nous enseigne aussi ce que tu attends de nous. Une fois sauvés, une fois bénis, tu nous utilises pour bénir les autres. Quelle plus belle vocation pouvons-nous avoir que celle de bénir les autres? C'est à cela que tu nous appelles, nous qui sommes tes enfants. Et Seigneur encore, tu proposes à celui qui ne l'est pas, eh bien de te découvrir, de te connaître, de créer une relation, d'avoir une relation personnelle avec toi. Seigneur, tu ne prives personne de te connaître. Il suffit qu'il croie ta parole et qu'il te demande de venir dans son cœur, en te demandant aussi pardon pour ses péchés. Merci Seigneur pour ton sang qui nous lave de tout péché, pour ton esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Ce jugement qui est tombé sur toi pour qu'il ne tombe pas sur nous si nous le croyons. Merci Seigneur pour le châtiment qui nous donne la paix à nous et qui est tombé sur toi. Merci Père. Amen. Amen.